de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Voici un bouillon de Chartreuse consacré au thème de l'expression orale. On va écouter Sylvie Pombé et Benjamin Huet, qui sont deux personnes qui permettent à tous et à toutes de s'exprimer ensemble en plus. On écoute d'abord Sylvie Pombé, animatrice historique des Cafés Bonne Nouvelle, qui existe à Chambéry depuis des années, qui ont de plus en plus de succès. Bonjour, alors j'ai le plaisir d'être avec Sylvie Pombé, qui est l'animatrice historique des Cafés Bonne Nouvelle à Chambéry. Bonjour Sylvie. Merci déjà d'être avec nous. Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à ces Cafés Bonne Nouvelle. Et je voulais vous demander si vous en connaissez un peu l'origine, parce que j'ai essayé de chercher et j'ai pas trop trouvé. J'ai entendu dire que c'était inspiré des carnets, je sais même pas ce que c'est, ou alors de quelque chose qui est né en Suisse. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus?
Eh ben voilà. Bonjour. Et en fait, d'où ça vient, cette histoire? Ça vient d'une femme qui s'appelle Karine Schwing-Barbeyer et qui avait vu qu'en Suisse, il y avait des cafés déclic.
Ah oui, c'est ça.
Et les cafés déclic, c'était des endroits où on donnait la parole à des gens qui faisaient des choses intéressantes. Et Karine, qui était très sensible à comment on porte l'énergie du monde, s'est dit, mais les mauvaises nouvelles ont tellement de lieux pour être dites, redites, mâchouillées, jusque des fois à en vomir, que peut-être on peut faire autre chose.
Oui.
Et elle a eu cette idée d'imaginer ce Café des Bonnes Nouvelles. Donc, on a commencé en 2012 et on va venir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que les Cafés Bonnes Nouvelles, mais vous évoquiez les carnets. Alors, les carnets, c'est les carnets de campagne sur France Inter, de midi et demi à 1h moins le quart avec Philippe Bertrand. Et effectivement, on a un compagnonnage, un parrainage avec Philippe Bertrand qui très gentiment nous fait annonce nos événements et puis nous a donné la parole deux fois pour ça. Et Carnet de campagne, c'est une émission qui est faite pour donner la parole à des gens qui font des choses intéressantes et qui vont dans le bon sens pour les gens et pour la planète. Voilà.
Eh ben merci pour tous ces renseignements, parce que bon, ben, c'est vrai, moi, personnellement, des fois, j'allume pas trop la télé ni la radio, parce que c'est vrai qu'on est submergé, ça crée une ambiance de stress. Moi, des fois, je me dis, est-ce que c'est bien normal qu'on soit au courant de tout ce qui se passe de négatif dans le monde? Et donc là, ça nous change un petit peu. Mais vous, à titre personnel, vous aviez eu une formation pour gérer tout ça?
Alors, d'abord dire que les bonnes nouvelles, Karine, qui a été l'instigatrice, la muse, etc., n'a jamais pu participer au café parce qu'elle était gravement malade et elle est décédée après le deuxième café. Oh. Mais elle a pu savoir que c'était magique et que ça marchait très bien. Et je suis sûre que de là-haut, elle ne nous lâche pas. Donc, j'en étais à Karine. Et oui, vous dire que c'est pas une personne qui porte les cafés, c'est une équipe. Mm-hmm. Donc, une équipe qui regroupe Yves, François, Nicole, Mélissa et moi. Et moi, mon métier, c'est l'animation. Donc, c'est pas trop compliqué d'animer les cafés. Mais mes collègues sont tout aussi doués. L'objectif, c'est de faire un moment sympa, convivial, où il n'y ait pas de barrière entre les gens. Et donc, à partir du moment où on n'a pas trop peur de prendre la parole, l'ambiance fait que tout est simple et agréable.
Oui, parce que j'ai vu que en fait, c'est pas des tout petits cafés. Hein. Il y a entre 80 et 140 personnes en moyenne. Donc, pour gérer ça, c'est quand même pas facile.
On est très fiers.
Et donc, déjà, on va parler du prochain. Comme ça, les gens pourront bien s'imaginer de quoi il s'agit. Alors, en fait, en première partie, ça commence toujours par un lâcher de bonnes nouvelles en vrac. Selon l'inspiration de chacun, vous donnez la parole au public de façon aléatoire. Comment ça se passe?
Voilà, c'est ça. Le principe, c'était que si on vient au Café des Bonnes Nouvelles pour aller voir des spécialistes des bonnes nouvelles, de dramatiques, c'est pas du tout ça qu'on cherche. Mmh. Nous, on va donner la parole à des gens qui sont intéressants, mais l'objectif, c'est que chacun d'entre nous, on devienne porteur de bonnes nouvelles. On raconte des belles histoires, on raconte des belles rencontres, on raconte des choses qui sont bonnes pour l'environnement. C'est ça l'objectif. Donc, la première partie du café, on s'entraîne à ça. C'est qu'on dit aux gens, eh bien alors, racontez-nous des choses sympas.
Oui.
Et des initiatives qui sont intéressantes et vous dites, ah, c'est super. Voilà, que ça nous donne envie, quoi.
Oui, puis en plus...
Et cette première partie qui dure à peu près 20 minutes, elle est vraiment très, très importante pour nous parce que si on ne devient pas contagieux de bonnes nouvelles, il y a une mission qu'on loupe.
Oui,
voilà.
Tout à
Donc,
fait.
Donc, première mission, contagion de bonnes nouvelles. Et deuxième mission, sur une thématique, on donne la parole à des intervenants. Donc, en général, on a entre 4 à 6 intervenants par café. Et l'objectif, c'est que sur une thématique donnée, je pense à la culture, par exemple, le thème sur la culture, c'est hors les cadres, hors les murs, on a donné la parole à des gens extrêmement différents. Et par exemple, il y avait une femme qui était clown à l'hôpital, il y avait la directrice de Malraux qui venait parler de Malraux en nomadie puisqu'ils n'avaient plus de lieu. Il y avait une recyclerie des arts du spectacle de l'avant-pays qui était là. Il y avait un artiste. Enfin, on essaye vraiment d'inviter des gens divers pour donner plein de facettes au sujet. Et c'est pas du tout une personne qui vient prendre la parole pendant une heure.
Oui, puis voilà. En plus...
Donc ça, c'est le principe des cafés. Sauf que le premier café cette année, c'est pas ça qu'on va faire.
Ah.
On va faire le lâcher de bonnes nouvelles parce que ça, c'est incontournable. Mais le prochain café, il s'appelle « Se refonder pour ne pas s'effondrer ». On ne peut pas ignorer que la planète ne va pas bien et que les scientifiques nous alertent sur le fait que ça va extrêmement vite. Et aller au café des bonnes nouvelles, c'est pas être dans un monde de bisounours. C'est d'être dans un monde où on va s'entraîner à des aventures collectives, à des choses alternatives pour qu'elles grandissent. Et on s'est dit que là, c'était important de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, on va faire un format plus long avec un intervenant principal qui est Sébastien Kraft et qui va venir faire le point sur où est-ce qu'on en est par rapport à cette question de l'effondrement. Et comment on peut regarder un peu tous azimuts ce qui se passe en ce moment. C'est pas des bonnes nouvelles, hein. Sauf que regarder ça avec lucidité, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se cachent. Donc on va regarder ça avec lucidité. Et ensuite, on va regarder toutes les pistes possibles. Toutes les pistes possibles. Ensemble, on va réfléchir à des pistes possibles pour voir quelles alternatives et comment on peut faire bouger les choses dans le bon sens. Voilà, donc ça, c'est le premier café. Le 9 octobre, très important, on est à la MJC de Chambéry. Merci à la MJC de nous accueillir, parce qu'avant, on était à la maison des associations, mais il y avait trop de monde pour la salle.
D'accord. Et c'est de 19h à 21h toujours.
19h-21h, MJC, 9 octobre.
Et donc, ça parle de la fin du monde, mais ça reste quand même positif, parce que l'idée, c'est que vous croyez qu'une autre fin du monde est possible que celle qu'on nous annonce.
Voilà, ça c'est le titre de Pablo Servigne, et c'est vers ça qu'on voudrait aller. Et que, je ne sais pas si sur ce sujet-là, on peut être positif, mais en tout cas... on peut se serrer les coudes et développer des aventures collectives pour y faire face autrement, pour que autre chose soit possible.
Oui, parce que moi, je pense qu'il est important de comprendre aussi vos cafés Bonne Nouvelle. C'est pas juste histoire de parler pour le plaisir de parler. L'idée, c'est quand même de puiser des actions qui ont des effets positifs sur la société et l'environnement et d'être dans les initiatives, dans l'action.
Exactement. C'est exactement ça.
Voilà.
Et quand on donne la parole à des gens, le refrain, on pourrait dire ça, c'est plus joli que le cri de guerre. Le refrain des cafés de Bonne Nouvelle, c'est quand on a terminé une intervention, un témoignage, les gens puissent dire waouh, ben ça, super. Ou ça me donne envie. Ou nous, il n'y a rien qui nous plaît plus que quand on a fini à 21h, les gens à 22h30, ils sont encore là pour parler.
Oui.
Et ils interpellent, et ils interviewent, et ils discutent entre eux. Et il y a des gens qui sont, par exemple, on avait évoqué d'organiser des veillées culturelles. Et ben, le jour où il y a eu un témoignage sur les veillées culturelles, il y a deux groupes de veillées qui se sont créés. Voilà, ça pour nous, que ça donne de l'élan, c'est vraiment notre objectif.
En fait, c'est, vous résumez ça en disant que vous voulez faire tache d'huile, c'est ça?
Oui, on peut dire ça.
Oui.
Moi, je disais d'être contagieux, mais tache d'huile, c'est très bien.
Et les intervenants, vous les choisissez comment?
Eh bien, on cherche dans nos réseaux. Mmh. On est des gens qui avons du réseau. Et puis, on sollicite les gens qui viennent au café. Et puis, on sollicite machin qui connaît truc, etc. Voilà, donc on fait bouger les réseaux. Et on fait venir des gens qui sont... pas forcément des bons orateurs, mais des gens qui vont parler avec leurs tripes.
Oui.
Voilà. Qui vont nous toucher, qui vont nous intéresser et qui vont nous toucher. C'est ce cocktail-là qui est intéressant.
Et parfois, j'ai vu que vous faites des voyages dans vos années de programmation. On peut résumer un petit peu vos thèmes. Moi, j'en ai vu quelques-uns pour que les gens s'imaginent bien de quoi vous parlez. Il y avait eu un thème, par exemple, « N'en jetez plus », »,« Lutte contre le gaspillage alimentaire ». Il y avait eu « Transmettre pour cultiver les possibles », »,« La transmission des compétences et des savoir-faire », »,« La simplicité volontaire et conviviale »,« Tous les espoirs sont permis, les jeunes prennent leur place ». Vous insistez beaucoup sur le côté aussi transgénérationnel?
On essaye. On aimerait beaucoup avoir plus d'impact auprès des jeunes. Il y a des jeunes, selon les thèmes, il y en a plus. Mais on essaye vraiment que tout le monde puisse venir. Et par rapport à d'autres lieux, ce que je trouve intéressant au Café des Bonnes Nouvelles, c'est que ce n'est pas 100% les gens militants qui sont là. C'est très ouvert.
D'accord. Parce que ces rencontres, en fait, elles initient plein de nouveaux projets. J'ai entendu parler d'emprunts particuliers, de réveils de bibliothèques, de plein de choses. Vous avez d'autres exemples?
Sur les choses concrètes. Après, on ne sait pas tout ce qui se passe, comment les gens vont...
Ah oui, vous semez la graine, en fait, et puis...
Oui, par exemple, je me souviens quand on avait fait un truc sur l'habitat partagé, il y a deux groupes qui se sont constitués le jour même et qui ont fait tout un travail. Bon, finalement, ça n'a pas abouti directement à un habitat partagé, mais les gens s'étaient appropriés le sujet pendant le café et on travaillait là-dessus après. Donc, je ne sais pas très bien ce que les gens en font, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils reviennent.
Oui.
Vous avez dit qu'on a du monde. C'est assez étonnant parce que chaque fois, on a un tiers de nouveau.
Oh.
Et ça, c'est très chouette.
Bah oui, c'est que vraiment, ça plaît aux gens.
Oui, c'est vivant.
Le premier Café Bonne Nouvelle, c'était en quelle année?
2012.
2012, donc ça fait 7
justement,
ans.
Justement, c'était sur l'habitat partagé.
Ah oui. Est-ce que... Et puis, je me disais qu'une ville comme Chambéry, ça doit bien se prêter à ce genre d'initiative.
Oui. Et puis Chambéry, c'est quand même une ville où il y a énormément d'initiatives, des gens qui se bougent, qui font des choses intéressantes. Et moi, je suis très contente que ça se passe à Chambéry. C'est vraiment chouette.
D'accord. Ça vous demande beaucoup de travail en amont ou pas? Vous retrouvez souvent?
Non. Oui, évidemment. Mais non, pas trop. Parce que l'objectif de notre petite équipe, c'est que si ça devient trop lourd, on va lâcher l'affaire.
Ah.
Donc, il faut que ça reste simple. Et chaque année, on se dit, ben là, on est allé au bout des thèmes. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir inventer. Et à la fin de l'année, au dernier café, on travaille avec les gens et hop, on retrouve 5 thèmes. Et du coup, je vais peut-être vous donner les thèmes de l'année, là.
Ben oui.
Le, Le 11 décembre, on va évoquer tout ce qui tourne autour du logement, le logement économe, léger, sobre par rapport à l'environnement, collectif, etc. Voilà, on va travailler sur cette thématique. En février, on a un thème un peu étonnant qui s'appelle « Exigence d'intérêt public ». L'intérêt public, c'est juste tellement important pour chacun d'entre nous. Mais aussi parler de la question de la désobéissance d'intérêt public. C'est qu'aujourd'hui, si on se restreint à toutes les normes qu'on a pu inventer, on ne peut plus être créatif.
Ah oui, on peut
donc,
plus rien
la
faire.
Désobéissance, ce n'est pas une désobéissance idiote ou réactionnelle. C'est une désobéissance qui dit, on va tester un peu de sortir de ça ou de ça pour voir ce que ça peut produire. Ensuite, en mars, le 25 mars, histoire d'intégration d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que ça, c'est quand même un sujet tellement important dans notre société. Et en mai, le 13 mai, on va inviter des gens qui font des choses qui sortent de l'ordinaire et qui nous donnent de l'inspiration. Voilà, on termine toujours par un sujet comme ça, un peu, qui donne de l'élan pour l'été.
Oui, et d'ailleurs, je me disais au sujet du Café Bonne Nouvelle du 25 mars, l'idée, oui, c'est trouver comment s'intégrer sans perdre ses racines. Et on dirait que c'est de plus en plus difficile pour les nouvelles générations. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, c'est ça qu'on va aller explorer. Et ça nous intéressait d'aller explorer, parce que quand même, des gens qui sont venus s'installer, il y en a eu beaucoup en Savoie. Hein. Donc, je ne sais pas encore à qui on va donner la parole, mais sans doute à des Italiens, évidemment à des Maghrébins, sans doute à des Africains qui sont des gens qui arrivent en ce moment. Et peut-être on va donner la parole à des gens qui n'étaient pas Savoyards et qui sont venus ici. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sent intégré ? C'est quoi les qualités des gens qui accueillent pour trouver sa place ?
Et puis peut-être qu'il y a certaines cultures qui s'intègrent plus facilement que d'autres. On citait les Italiens, c'est vrai qu'ils sont réputés pour ça quand même. Et en même temps, ils perdent pas non plus leurs racines. Ils ont peut-être des solutions.
Oui, maintenant on dit ça. Si on lit les Rital de Cavana, ou les Polacs, l'intégration des Polonais et des Italiens, ça a quand même été hyper rude. Hein.
Ah oui, je dis pas que c'était facile. Hein. Ma grand-mère était italienne et tout. Mais n'empêche qu'ils ont su, malgré ça, y
ça
arriver.
C'est sûr.
Donc, ils ont peut-être des bonnes nouvelles, en fait, des solutions, justement.
J'en sais rien. Parce qu'on voit bien que une petite fille d'Italien, elle se dit française, alors que... un petit-fils de maghrébin, on va continuer à dire que c'est un fils de maghrébin.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc c'est un peu ces questions qu'on va explorer.
Bon, en tout cas, bravo pour ces Cafés Bonnes Nouvelles. C'est vraiment quelque chose de précieux, je pense, dans le monde où on vit.
On pense ça. On est très modeste parce que nous, sans le public, on n'y arriverait pas. Hein. Donc tous ensemble, on est très contents de ça.
Oui, mais c'est quand même vous qui avez réussi à le mobiliser, à mettre tout ça en place. Donc bravo quand même.
Merci.
À toute l'équipe et bonne continuation. Et je continuerai donc à parler de ces cafés.
Eh ben, merci infiniment.
Merci.
Et bon
moment
à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Watch birds as a child, and all the old tales become trouble. Something has changed in the picture that you thought would be there all time. You whip along with the willow. I was told that these walls, they could crumble, but then rise up somehow in the end. And I know it's by chance that you stumble, there's a hope that I'll smile again. your very eyes. All around in circles, always chasing illusion.
Maintenant, on écoute Benjamin Huet, c'est un aidant passionné par l'humain qui va avoir un rôle de catalyseur d'évolution et de changement de l'humain, justement. Et là, Benjamin est venu nous parler de théâtre impro. Et maintenant, on va parler donc théâtre impro. Alors, j'ai cru comprendre que c'est une mode qui vient du Québec.
Ah, une mode, carrément. On parle beaucoup de mode aujourd'hui, Catherine. Je suis pas sûr que ce soit une mode. C'est une discipline, un art éventuellement, et qui vient du Québec. Je dirais pas exactement ça non plus, mais disons que ça a été remis au goût du jour il y a une trentaine d'années, effectivement, quand le Québec s'est emparé de la discipline pour en faire un spectacle en particulier qui s'appelle le match d'impro.
Voilà.
Qui commence à être bien reconnu en France, parce qu'à la base, Le Duc et Gravel, les deux Lascars qui ont inventé ça, s'étaient posé la question, mon Dieu, mais qu'est-ce qui fait que nos théâtres sont vides alors que les patinoires de hockey sont pleines? Et ils se sont dit, on va prendre les règles du hockey et puis on va les importer dans le théâtre et on va voir ce que ça donne. Donc je peux vous laisser imaginer ce qui peut se passer quand on croise un sport collectif et du théâtre. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, c'est normal, c'est pas simple. Mais dans ce cas-là, allez vite voir ce qui se fait en termes de match d'impro. Il s'en passe beaucoup entre Chambéry et Voiron. Mais en pratique, ça fait deux équipes d'improvisateurs et d'improvisatrices avec un arbitre au milieu qui donne des thèmes et des contraintes et une durée d'improvisation. Et ces deux équipes vont se rencontrer sur scène pour improviser autour de ce thème. Et à la fin de l'improvisation, le public vote avec un carton à main levée et pour l'équipe qu'il a considérée comme étant la plus performante. Et ensuite, au bout d'une quinzaine d'improvisations, parce que ça dure quand même une bonne heure et demie, on détermine quelle équipe a été la meilleure, la plus belle, la plus merveilleuse. Et il y a plein de choses, il y a des championnats, il y a des tournois. Donc dire que ça vient du Québec, je suis pas certain, parce que ce soit la France, l'Italie, c'est des grands pays d'improvisation quand même à la base. Mais ça a été comme... par exemple, Molière, basiquement, le gros du travail de Molière, ça a consisté à mettre sur papier des lazzi ou des choses qui revenaient de la comédie dell'arte, qui étaient très... qui était très improvisée, par exemple. Mais il y a eu un creux, effectivement, au XXe siècle. Et ça revient énormément, essentiellement parce que c'est des formes qui sont populaires à la fois... Enfin, des formes de spectacles qui sont populaires à la fois dans la forme, à la fois dans le contenu. C'est très accessible. C'est-à-dire qu'on a beau dire, ouais, c'est mieux pour les adultes. En pratique, les enfants s'amusent incroyablement parce qu'il y a une ambiance, il y a des choses qui s'y passent. Après, c'est de loin, en ce moment, de moins en moins la forme qui a le vent en poupe parce que ça, c'était une forme qui est arrivée dans les années... Alors, le Duc Gravel, c'est les années 80, on va dire. Et puis, quand c'est arrivé en France... Il y a eu un grand succès, mais ensuite, les gens qui font de l'impro, là, maintenant, depuis 10, 20 ans, moi, j'ai commencé en 2001, donc ça commence à faire...
2000 ans ?
Ouais, ça commence à faire un petit peu, ouais.
T'as commencé par hasard, ou...
Non, j'ai pas commencé par hasard. Je te dis ça juste après.
Ouais.
C'est histoire de parcours. Mais du coup, les gens qui font de l'impro depuis un moment, en fait, ils se sont un peu lassés du match d'impro. Ils sont allés vers des formes qui sont plus... où on a des formes plus théâtrales. Et typiquement, tu vois, ce que je joue ce soir à Lyon, ça s'appelle l'invitation. C'est une improvisation qui dure une heure, qui est très basée sur le relationnel entre les personnages et où le cœur de la pièce, c'est la révélation d'un secret. Donc le public décide du secret en début d'improvisation, en début de scène, en début de pièce, décide la personne qui va révéler le secret, qui est aussi l'hôte de la soirée, puisque tout ça se passe dans le cadre d'une soirée apéritive, et c'est lancé. Et ensuite, ben, ce secret va exploser et va avoir un impact sur les relations entre les différentes personnes qui sont sur scène. Et pendant une heure, on va voir évoluer ça. Et c'est une forme d'improvisation qui est très différente de l'improvisation courte où la blague est fait l'essentiel en fait de l'intérêt. On va vers de l'impro qui est plus construite, qui est aussi plus écrite, où il y a un jeu de comédien qui se rapproche beaucoup plus du théâtre. Et c'est des formes qui émergent énormément. Là, en l'espace de 5 ans, on a eu une explosion de la diversité des spectacles d'improvisation au point qu'il y a certains théâtres solides là, qui sont désormais que des théâtres d'improvisation et qui proposent une diversité de spectacles au même titre qu'un gymnase propose une diversité de sports. En réalité, c'est toujours un gymnase, mais les sports ont plus rien à voir. Et c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose à voir entre un match d'impro et une pièce improvisée ou une pièce montée ou un solo d'impro où il y a quelqu'un. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui faisait une improvisation, c'est Gaëtan Bayot qui propose ça. Une improvisation à la manière de Molière où il est tout seul et il fait tous les personnages. Non. Et c'est incroyable parce que ça marche extrêmement bien. On peut se dire, oui, ça va être un gros bruit. Non, ça marche très bien. Il demande au public quels vont être les personnages, les noms, et il se fait les 8, 10 personnages et ça marche très bien.
Et toi, tu as attribué à quoi le succès justement de cette nouvelle forme de théâtre ?
Je pense à l'accessibilité. Vraiment, il y a quelque chose où... à l'accessibilité et au fait que on ne puisse pas trop se prendre au sérieux. Parce que même des gens qui sont très bons, qui ont beaucoup d'ancienneté, etc., eh ben, des fois, ça leur arrive de faire des choses dont ils ne sont absolument pas fiers. C'est de l'improvisation, donc on n'est jamais sûr de ce qu'on va voir. Et c'est aussi, je pense, la difficulté face à des programmations dans des théâtres bien installés, type théâtres municipaux ou scène nationale, même si l'an dernier, il y avait une improvisation qui s'appelait Molière Improvise, donc on est encore dans le domaine de Molière, je parle beaucoup de Molière, je ne sais pas pourquoi, au Carré Curial. Il y a 2 ans, je crois qu'il y avait une comédie musicale improvisée qui s'appelle New, en France, c'est une comédie française, New ou News, au théâtre municipal de Grenoble. Donc ça commence à rentrer, mais sur des formes qui sont très travaillées, avec une scénographie, et où en fait il y a une qualité qui, même quand elle est faible, reste quand même... faible par rapport à son habitude, a une qualité moyenne quand même très élevée, ce qui fait que du coup c'est tout à fait vendable, et quand on va aller voir, on sait à quoi on s'attend. Je pense néanmoins que dans l'esprit des gens, le théâtre d'impro, c'est pas prise de tête, c'est facile d'accès, et c'est pour ça que ça a son succès. Et puis il y a ce match d'impro qui vraiment a une popularité, ça touche tous les âges en pratique. Et à l'opposé, on a des spectacles. Cet été à Avignon, j'ai vu un spectacle improvisé sur le burn-out. Ben là, c'est clairement, c'est pas tout public. Il y a un fond, il y a vraiment un propos. C'est pas simple d'accès. Et pourtant, la salle, elle était assez pleine. Donc, en fait, on a une espèce de tête de gondole comme ça avec le match d'impro. Et puis derrière, il y a toute une myriade de spectacles qui profitent de ça. Et c'est très chouette, parce que ça, c'est un monde de l'impro qui évolue.
Et puis, je pense que le public, on a un peu ras-le-bol d'être complètement passif. Moi, ça me rappelle un peu, avant le guignol, tout le public voyait la marionnette qui s'approchait par derrière et était impliqué dedans. Et en plus, avec les nouvelles technologies, le relationnel, ça manque. Donc là, il y a la présence des gens aussi, tout le monde participe, il n'y a pas le grand acteur et les autres qui écoutent.
Ouais. Je pense que ça joue énormément, cette notion d'interaction. Alors il faut voir, et c'est rigolo que tu en parles aussi, que ça relève de... Enfin, c'est récent en fait, cette époque où on a le public qui est complètement passif, ça date des années 1850. Avant, le public interagissait beaucoup, le théâtre c'était un espace de socialisation, on discutait, on blablabla. On revenait plusieurs fois voir le spectacle parce que et tout était allumé et éclairé dans le théâtre. On a éteint, et c'est rigolo que t'en parles, parce qu'on a éteint les théâtres dans les années 1850 quand on a commencé à essayer de faire du spectacle d'hypnose et que et notamment, comment elle s'appelait, Loïe Fuller, qui faisait de la danse serpentine avec des grands draps et des bâtons, enfin ça se voit encore un petit peu, et où elle avait pour objectif de donner une expérience d'hypnose au public. Et elle, c'est dans ce contexte là qu'on a inventé les projecteurs de lumière, donc avec des miroirs qui dirigeaient la lumière, et qu'on a éteint les lustres dans les opéras, etc. Parce que dans les spectacles de Loïe Fuller, on s'était rendu compte que, enfin, les directeurs de théâtre s'étaient rendu compte que les gens se taisaient, et ça leur plaisait beaucoup parce que du coup le spectacle redevenait le centre de l'attention de tout le monde. Et ça fait juste 150 ans qu'on éteint dans les théâtres, un peu plus maintenant. Du coup, ça fait juste 150 ans qu'il n'y a plus trop cette interaction, que le théâtre c'est devenu quelque chose qui peut parfois se retrouver être un peu élitiste, mais avant c'était quelque chose de un peu vulgaire, où il y avait de la gouaille, il y avait plein de choses. Et on se retrouve en théâtre d'impro, on peut se retrouver avec cette ambiance-là, où les gens peuvent avoir leur mot à dire, interagissent. Moi j'arbitre énormément de choses en théâtre d'impro. Et l'interaction qu'on a en tant qu'arbitre, où le public nous hue, parce que, enfin, si vous n'êtes jamais allé voir un spectacle d'impro en match d'impro, je vous suggère d'aller y faire un tour, parce que pour le coup, vous risquez d'être très dépaysé par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a même certains au Québec, typiquement, dans le match d'impro, on peut jeter des chaussettes ou des pantoufles quand on n'est pas content de ce qui se passe.
Donc, pas des tomates pourries.
Non, c'est vraiment. Alors en France, on a remplacé ça par des vieilles chaussettes, des roulées en boule.
Propres ou sales.
Généralement, on les lave.
Et toi, donc, premier déclic en 2001, la première fois, ça s'est passé comment ? T'es arrivé par hasard ou...
Ouais, c'était un peu par hasard parce que moi, j'ai commencé le théâtre en 96. Ça m'a beaucoup plu tout de suite. J'ai fait quelques années, j'ai fait de la comédie musicale, du théâtre à texte sur Prévert, des choses très classiques en somme. Et quand j'ai déménagé à Chambéry, j'ai voulu refaire du théâtre. Et je suis allé voir ce qui s'appelle le tournoi de la rentrée, un des tout premiers tournois de la rentrée du TIX, du théâtre d'improvisation de Chambéry-Savoie.
Ah, j'en ai entendu parler.
Et oui, bien sûr, maintenant ça devient un événement, c'est un événement international. Il y a quatre ou cinq grosses équipes avec au moins trois pays différents, ou voire quatre. Et quand je suis allé voir ce truc-là, je me dis « Oh, c'est incroyable, c'est génial ce qu'ils font !» Du coup, plutôt que de m'inscrire au théâtre à texte, je suis allé m'inscrire au théâtre d'impro. Ça ne s'est jamais trop arrêté. En fait, j'ai eu des petites pauses parce que je déménageais, mais en pratique... J'ai accroché tout de suite. Accroché tout de suite parce qu'en fait, il y a plusieurs types de personnes qui viennent au théâtre d'impro. Il y a la personne un peu introvertie qui veut apprendre à faire un peu, à avoir de la blague, qui veut justement un peu sortir d'elle-même. Il y a les gens qui veulent s'amuser, qui veulent se changer les idées une fois par semaine sans se prendre la tête. Et puis au contraire, il y a les gens qui savent déjà raconter des blagues, qui savent un peu ramener l'attention à eux. Mais moi, tu m'entends, hein, je parle beaucoup. Donc je suis plutôt, j'étais plutôt dans cette catégorie-là. Et là, d'un seul coup, non seulement je commençais, enfin, je mettais en valeur cette fibre-là de parler facilement un petit peu devant les gens, parce que ça faisait quelques années que je faisais du théâtre. Mais en plus, j'avais une qualité de propos, de discours, etc., qu'on ne retrouve. Il y a aucune autre, je pense, discipline grand public qui permet de faire ça, de travailler sa rhétorique, son éloquence, travailler sa tenue sur scène, ses postures. C'est un sport complet, l'improvisation. C'est-à-dire que c'est fréquent qu'il y ait des gens qui viennent du théâtre et qui font de l'impro, ils reprennent à zéro. Alors que les gens qui font de l'impro et qui vont vers le théâtre, généralement, ça fait des très bons comédiens parce qu'ils ont touché à beaucoup, beaucoup de domaines, ils ont travaillé beaucoup d'auteurs, vraiment, c'est très complet sur la corporalité, sur la... Un improvisateur, c'est quelqu'un qui écrit sa scène, qui la met en scène et qui la joue. Donc c'est un auteur, un comédien, un metteur en scène en même temps. Et ça, quand on ne travaille que la partie comédien, on n'a pas du tout ce triple travail. Et ça vient vraiment enrichir la performance d'une manière générale.
Porque te van engañando, palabras que son mentiras. Dices que no te importan, pero yo sé que no es verdad. Porque te van engañando, palabras que son mentiras. Dices que no te importan, pero yo sé que no es verdad. Penas que te van matando, por la calle vas llorando. Tu corazón está triste, pero tú puedes remediar. Ven, 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 ven. Vente tú conmigo, ven, ven, no le des más vuelta, ven, ven, y hasta que tú veas, ven, ven, que yo soy tu amigo, ven, ven, vente tú conmigo. Soy tu amigo. Cuando cruzo tu mirada, veo tristeza en la cara. Solo digo una palabra, tus ojos rompen a llorar. Vente conmigo a mi vera, te prometo cosas bellas. No solo yo soy tu amigo, tú sabes que soy algo más. Tú sabes que soy algo más, tú sabes que soy algo más. Ven, ven. Vente tú conmigo,
ven, ven.
No le des más vuelta,
ven, ven.
Hasta que tú
soy tu amigo, ven, ven,
vente tú conmigo,
ven, ven,
no le des más vuelta,
ven, ven,
hasta que tú veas,
ven, ven,
que yo soy tu amigo,
ven, ven,
vente tú conmigo,
ven, ven,
no le des más vuelta,
ven, ven,
hasta que tú veas,
ven, ven,
que yo soy tu amigo,
ven, ven,
pero que vente, vente,
ven, ven, ven.
Pero que vente, vente, ya.
Ven, ven.
Ben, ben.
Ben, ben.
Ben, ben.
Bouillon de Chartreuse.
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Et donc maintenant, Benjamin, tu vas nous dire, quand on habite dans le pays voironnais, si on a envie de faire du théâtre impro avec toi, alors comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que tu proposes?
Concrètement, je propose des ateliers. Et des ateliers, j'en propose, généralement c'est le mercredi, j'en propose entre midi et 2 à Centre-Alpes. Cette année c'est une nouveauté, j'avais jamais fait ça et j'aime beaucoup parce que c'est un moment 12h15, 13h15, il y a des gens qui sont disponibles, en fait c'est plein de gens qui veulent rentrer chez eux le soir et pas oui. tellement en ressortir, là c'est juste à côté de leur lieu de travail. Et du coup, ils arrivent, ils repartent, ça dure une heure, c'est un petit groupe, donc on travaille avec beaucoup d'intensité. C'est toutes les semaines, donc quand bien même il y a des gens qui peuvent pas, parce qu'ils sont absents, ils savent qu'ils peuvent... Enfin voilà, il y a quand même une très grande régularité. Donc ça, l'association, ça s'appelle Centre-Alpes, comme ça s'entend. C'est les 300 entreprises qui sont là et qui ont monté, je pense, une association qui a un panel d'activités très large que je ne connaissais pas et qui ont débuté cette année. Et puis je suis à la MJC de Voiron aussi où on a un atelier avancé, donc peut-être que ça ne concerne pas tes auditeurs, quoique si vous avez déjà fait de l'improvisation depuis un an ou deux, à partir d'un an je prends un groupe avancé, vous pouvez rejoindre cet atelier là qui est le mercredi soir de 19h à 21h en alternance avec un groupe débutant. Et le groupe débutant, bah là c'est un groupe qui a donc lieu en alternance avec le groupe avancé une fois tous les 15 jours pendant 2h, 19h, 21h. Donc c'est relativement tôt dans la soirée, ce qui fait que généralement on va boire un petit coup après au bar, et où les gens ils sont rentrés chez eux pour 10h. Donc en pratique c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas trop contraignant, il n'y a pas un aspect mon objectif c'est pas que les gens ils se fatiguent avec leur hobby et qu'ils en fassent dans tous les sens. Donc pour l'instant il y a une fois tous les 15 jours, il y aura peut-être, cette année il y a un peu de succès sur le cours débutant, j'avais lancé un cours ado où il n'y avait pas assez de monde, donc peut-être qu'on va lancer un deuxième cours débutant, plus on est en train de réfléchir, mais je pense que si vous êtes dans le pays de Chartreuse, il y a de quoi descendre des montagnes pour aller voir ce qui se passe soit à Centre-Alpes, soit à la MJC de Voiron directement. Ou sur leur site internet, évidemment, sachant que le mien, il y a l'ensemble des informations dans l'onglet atelier. Tu veux que je te donne mon site internet?
Oui, je veux bien.
Ok. Eh bien, mon site internet, n'hésite pas à le noter, c'est improviser.info. C'est extrêmement simple. C'est improviser.info, puisque l'idée, c'est de donner des infos sur l'improvisation. Enfin bref, voilà, vous aurez compris, Catherine.
Oui. Et donc, en parlant des ados, moi, ça me paraît, je suis maman à côté, difficile pour un ado de... Est-ce que les ados se portent volontaires? Parce que pour s'exprimer, la sociabilité et tout, ils savent pas trop qui ils sont, est-ce qu'ils y arrivent facilement?
C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a plusieurs catégories de personnes qui viennent dans les ateliers, et ça vaut aussi pour les ados. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont très à l'aise, et en fait, qui viennent briller. Mmh. Il y en a d'autres qui sont très volubiles, qui parlent dans tous les sens et qui viennent canaliser ça. Et il y en a d'autres, au contraire, qui sont très introvertis, qui parlent pas, quoi, et qui viennent au contraire stimuler ce côté créatif, etc. L'atelier, moi je tâche de faire en sorte que ce soit un espace sécurisé, émotionnellement, en termes d'image personnelle, etc. Parce que une des manières de produire du changement chez les gens, c'est de leur faire expérimenter certaines choses dans un cadre où ils ne risquent pas grand-chose. Et finalement, un atelier où il y a une petite dizaine de personnes, où c'est fermé, c'est pour ça que typiquement, personne, quand les gens ils disent « je viens voir l'atelier », je dis « non, on vient jamais voir un atelier ». Un atelier, c'est pas un spectacle, on participe toujours. Quand les gens ils viennent tester, ils disent « je me mets sur une chaise », je dis « non, non, vous ne les mettez pas sur une chaise, vous les mettez sur scène avec nous ».
Dès la première fois.
Dès la première fois,
tu les jettes au feu.
Non, jamais, je les jette pas au feu. Non, c'est je fais pas ça. L'idée, c'est que ce soit sécurisé. Et qu'ils se sentent en possibilité de prendre un risque qui est mesuré à la hauteur du truc. Donc, ils s'approchent du feu, qui grillent leur chamallow, qui voient, et puis un jour, éventuellement, ils sauteront par-dessus à la Saint-Jean. Mais on y va tout doux. Parce que l'idée, c'est pas que les gens ils se fassent mal avec ça, que ce soit les ados ou les adultes. Parce que tu parles des ados et tu penses que ça, mais les adultes, il y en a énormément qui sont dans ce cas-là, parce que c'est jamais que des ados qui ont 5 ou 10 ans de plus pour certains. Donc, c'est pas très, très, très différent.
Et les personnes âgées, est-ce que tu en as ?
Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive et ça m'arrive de plus en plus, mais je pense parce que je commence un peu à travailler là-dessus aussi. C'est-à-dire que avant j'étais extrêmement en fait j'avais la même exigence, ou disons que j'avais les mêmes attentes avec les personnes âgées qu'avec les adultes, qu'avec les ados. Et en fait on peut pas avoir les mêmes attentes avec les uns, avec les autres. On peut arriver à des résultats comparables, mais pas en les faisant passer par le même chemin. Et du coup j'ai des gens, oui, qui ont plus de 70 ans, je suis désolé pour les personnes qui ont 70 ans et qui ne se sentent pas âgées, mais j'ai des gens, oui, je pense,
entre 70 et 80 ans. On dit senior à partir de 50, donc tu peux...
D'accord, ok. Non, bah alors, pour le coup des seniors, j'en ai plein. Si tu as la définition de senior, c'est à partir de 50, oui.
Et avec l'habitude, est-ce que quand tu vois quelqu'un qui s'approche, tu vois tout de suite quel chemin il faudrait qu'il emprunte?
C'est le mieux de le faire en... Enfin, moi, c'est pour ça que c'est l'intérêt de l'atelier, c'est qu'on se découvre ensemble.
Voilà.
J'ai pas de... J'aimerais avoir des pouvoirs magiques de lecture dans l'âme des gens, mais j'ai pas ça.
Mais comment ça se passe concrètement? Alors, on arrive à un atelier, est-ce qu'on se présente?
Ouais. En fait, dans un atelier de 2 heures ou même d'une heure, hein, on commence toujours par un échauffement. Et les échauffements, on peut échauffer plusieurs choses. Une des trucs, c'est on peut échauffer les méninges, mais on peut échauffer le corps aussi. Très souvent, là, sur les débuts d'année, il y a des exercices dits de prénoms, où de plein de manières différentes, très ludiques, on apprend à connaître les prénoms des uns, des autres, de faire des présentations de soi. J'aime beaucoup, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire en début d'année, c'est la présentation de son propre prénom. Parce que très souvent, quand les gens se présentent, ils disent « Bonjour, je m'appelle Claude, je suis chef de produit dans telle entreprise, j'ai 44 ans, j'ai 3 enfants et j'habite à tel endroit. » Et en fait, toutes ces choses-là, ce sont que des marqueurs sociaux qui font que les gens ils se jaugent les uns avec les autres. C'est pas la même chose que si je m'appelle, j'en sais rien, Farid, je vais faire un truc très caricatural, je m'appelle Farid, je suis sans emploi et j'habite dans le quartier de la Brunetière, et puis je vis chez mes parents. Ouais, on a pas, le tableau que s'adresse n'est pas du tout le même. Et du coup, je refuse systématiquement que les gens se présentent avec ce genre de choses, parce que on ne peut pas contrôler les représentations qu'ils ont les uns des autres. Généralement, j'aime bien qu'ils se présentent sur leur prénom. Donc toi, par exemple, est-ce que tu aurais une anecdote sur ton prénom? Pourquoi tu t'appelles comme ça? Ou est-ce qu'un truc qui t'est arrivé un jour avec ton prénom? Parce que tu t'appelles Catherine?
Oui. Catherine, c'est la pureté, tout simplement.
D'accord.
Il y a eu des grandes dames qui sont appelées Catherine, Catherine de Russie.
Et moi je m'appelle Benjamin, ça voulait dire le dernier né, mais bien que je sois l'aîné de ma famille. Et je crois que mes parents, sinon, voulaient m'appeler Gaston, parce que mon père était fan de Gaston Lagaffe.
Oh, c'est mignon, n'est-ce Gaston.
Et tu vois, en termes de présentation, ça change quelque chose. Ça, en fait, ça ne dit pas grand-chose de moi, et ça ne dit pas grand-chose de toi, au final.
Tout à fait.
Mais finalement, on s'est introduit l'un à l'autre, et on a moins l'impression d'être des étrangers. Et puis après, les présentations entre les gens, elles se font avec ce qu'ils vivent dans l'atelier. Et ils vivent souvent des choses qui sont très fortes. Parce que on passe par des moments de nettoyage de son petit caillou personnel. Et du coup, des fois, c'est un peu émotionnel. Donc, ça suppose un peu de tact, de doigté, de pédagogie, tout simplement. C'est des ateliers, donc ça demande de...
Mais après, toi, tu lances un thème sur lequel les gens vont s'exprimer.
En atelier, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'échauffement, et ensuite, il y a une phase de travail scénique, et généralement moi je vais pas forcément proposer un thème, ça se peut, mais généralement on va proposer des dispositifs en disant là vous êtes sur, on l'a fait cette semaine, vous êtes sur, il y a 3 chaises au milieu de scène, on va faire un débat entre quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre, et il y a une personne au milieu qui va animer ce débat là, et puis on trouve un débat qui est complètement farfelu, type pour ou contre les nuages, et les gens s'animent autour de ce débat là et ils vont improviser. On a eu l'idée, c'est de proposer quelque chose qui va les faire travailler un point en particulier. Du coup, là, c'est l'idée d'interagir les uns avec les autres, de se laisser parler, mais sans non plus couper essentiellement la parole aux autres. Enfin, c'est le vrai travail dans cet exercice, c'est le travail du modérateur, c'est la personne qui est au milieu. Tu vois à peu près quel rôle ça peut être,
oui,
n'est-ce pas?
Et quels sont les principaux écueils? Ça t'est déjà arrivé que ça se passe mal ou pas?
Je pense que oui, ça s'est déjà arrivé que ça se passe. Alors, cette phrase-là, il faudrait définir le mot ça, que ça se passe mal, qu'une improvisation se passe mal. Oui, bien sûr, ça peut se produire. Quand il y a des gros égos, des gens qui prennent toute la place sur scène et qui ne la laissent pas aux autres, quand il y a des gens qui ne s'écoutent pas et puis que du coup c'est une cacophonie infernale, quand ils ne tiennent pas compte des propositions des uns et des autres et que du coup c'est pas une scène cohérente, ça part dans tous les sens et qu'on comprend rien à ce qui se passe. Ça, c'est ce que j'appellerais se passer mal. En match, on a un arbitre qui a pour fonction de pointer quand ça se passe mal et dire là, excusez-moi, mais ça se passe pas bien, parce que c'est une faute de manque d'écoute, c'est une faute de cabotinage, c'est une faute de ce que vous voulez. Enfin, il y a une vingtaine de fautes officielles dans le...
Ah oui?
Oui, oui. Ah ben, il y a quand même... Oui, non, il y a quand même une... Il y a des règles, vraiment, qui sont écrites. C'est pas... Le match d'impro, c'est très, très codifié. Donc, ça peut arriver que les impros se passent mal. Ça peut arriver, parfois, que ça se passe mal en atelier, oui, ça peut arriver. Des fois, quand, justement, moi, j'ai envie de pousser des gens un peu loin, et puis que je vais trop loin, ça m'arrive. Généralement, ça se rattrape. Puis après, il y a de l'humain. Donc, voilà. Mais dans l'ensemble, fréquemment, enfin, c'est pas vraiment, quasiment 99,9% du temps, ça se passe très bien parce que les gens, ils sont là pour se faire plaisir. Il y a très peu de gens qui viennent pour de la compétition, qui viennent... Et quand bien même ils viennent pour de la compétition, souvent on les décourage.
Oui.
Parce que... Si vous voulez, c'est un peu comme n'importe quel match de foot. C'est quand les gens regardent un match de foot, ils vont regarder une forme spectaculaire d'activité physique. Et pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Et si un des deux n'était pas parti pour être le perdant, si on n'apprenait pas à perdre, eh ben, il n'y aurait pas de gagnant. Mmh. Donc c'est vraiment un apprentissage de ces choses-là, de l'équipe et du vécu de groupe.
Ben, on va rester sur ces mots, donc plaisir, jeu, vous avez compris qu'avec Benjamin vous êtes en parfaite sécurité, c'est que c'est un pro du théâtre, un pro justement, et si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, vous le regretterez pas, hein, je pense.
Ouais, improviser.info pour avoir toutes les infos, parce qu'il y a un petit onglet agenda et il y a un petit onglet atelier pour voir ce qui s'y passe. À bientôt.
Ben, merci Benjamin Huet, à bientôt.
À bientôt Catherine Hubert.
Ouais, des paroles, des vrais. C'est un saucisson de cheval.
Et voilà, ce bouillon de chartreuse sur le thème de l'expression orale est terminé. À bientôt, je l'espère, pour un nouvel épisode de Bouillon de chartreuse.
De cheval, moi qui suis esthète. De cheval, ah, je trouve ça beau. De cheval, génial, admirable. De la peine, refrain. C'est le refrain. Moi qui viens de Grèce, de cheval, je m'appelle au reste. De cheval, t'as pas bouffé l'os. De cheval, je débarque à Paris. De veau, ho ho, quel régalo. De cheval, de prendre le métro. De cheval, quand on ne connaît pas. De cheval, oh, ce qu'on s'amuse. De bœuf et refrain. Le refrain, c'est toujours. Mes enfants, ma foi. De cheval, sont de vilains grognons. De cheval, quand ils pleurent en cœur. De cheval, j'essaie de les distraire. Les vaches, je viens à boudin. Boudin de cheval, mais les autres aussi sont. De cheval, toujours dans le besoin. De cheval, ça ne peut pas être pis. De chèvre, non. L'enfant, c'est. Quel est cet aztèque? De cheval, qu'on vient de voir filer. De cheval du haut de la côte, de cheval dans le précipice, en moto peut-être bien estomac, de cheval qui vient de me ventre, de cheval un complet à garrot, de cheval et un gilet pied, de poule. Allez maintenant je suis vu comme ça, maintenant je vais m'asseoir, j'en ai marre, je vais m'asseoir. Je désirais mâchoire de cheval et tu m'as menazo de cheval, canapé en rotin de cheval et mon cœur vous fumiez. Mes cigares n'étais-je pas l'affronier de cheval qui fourbu sa fesse de cheval, ça fait rire les groupes de cheval, ah comme l'écurie est gay. Albo saucisson de cheval, à chanson de saillie de cheval, ah je trouve sabot de cheval, car je suis esthète. De quoi? Esthète de quoi? Esthète de cheval.